Radio Kapi.
Oh, Kapi.
À la une de l'actualité, le sommet tripartite RDC Rwanda Angola se déroule ce dimanche à Luanda en Angola pour régler la crise sécuritaire dans l'est de la RDC. Martial Papi Mukeba nous en dit plus tout à l'heure. C'est aujourd'hui la tenue des élections législatives nationales et provinciales dans les circonscriptions de Massimanimba et Yakoma. À Massimanimba, par exemple, le matériel électoral était déployé hier dans les centres de vote. En rapport justement avec les élections Massimanimba et Yakoma, nous recevons comme invité le directeur des communications de la Commission électorale nationale indépendante, Jean-Baptiste Itipo. Il annonce des mesures sécuritaires et organisationnelles qui ont été prises pour que ces élections se déroulent dans le calme. Bonjour à tous. D'abord cette information. Clôture ce dimanche à l'Assemblée nationale et au Sénat de la session ordinaire de septembre. Après 3 mois de travail, les parlementaires iront en vacances après avoir voté la loi d'habilitation du gouvernement. Les deux chambres du Parlement procéderont au vote du budget 2025 après harmonisation des vues par la commission mixte paritaire Assemblée nationale et Sénat. À en croire les députés Gary Sakata, aucune disposition de la Constitution n'autorise au Parlement de renvoyer la clôture de la session à une journée ouvrable si le 15 décembre tombe le dimanche, comme c'est le cas avec l'ouverture. Gary Sakata est au micro de Michel Kifindangoy.
L'article 115 de la Constitution et l'article 68 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale prévoient que la première session ordinaire s'ouvre le 15 mars et se clôture le 15 juin. La deuxième session s'ouvre le 15 septembre et se clôture le 15 décembre. Si le 15 du mois de mars ou de septembre est férié ou tombe un dimanche, l'ouverture de la session a lieu le premier jour ouvrable qui suit, donc le 16. Cela a été le cas spécialement cette année où le 15 septembre était un dimanche. La séance d'ouverture n'a pu avoir lieu que le 16 qui était certainement un lundi. Puisque cette année, le 15 décembre tombe un dimanche, on ne peut pas prolonger jusqu'à lundi parce que la possibilité de prolongation au jour qui suit, elle ne concerne que l'ouverture, mais pas la clôture. Aucune session ne peut excéder 3 mois. Comme cette fois, le 15 tombe un dimanche, si nous allons le lundi, cela veut dire que nous avons déjà excédé 3 mois.
Nous le disions dans les titres. Les présidents Félix Tshisekedi de la RDC et Paul Kagame du Rwanda sont attendus ce dimanche 15 décembre à Luanda en Angola pour un sommet tripartite sous l'égide du président angolais João Lourenço, médiateur désigné par l'Union africaine pour la crise dans l'est de la RDC. Ce sommet revêt des enjeux considérables pour l'espoir de paix dans la région alors que des violents affrontements entre les FARDC et le M23 soutenus par le Rwanda se poursuivent depuis une dizaine de jours au sud du territoire des Lubero au nord Kivu. Les détails avec Martial Papi Mukeba.
L'enjeu principal de ces sommets repose sur la possibilité d'un tête-à-tête entre Tshisekedi et Kagame, dont les relations se sont gravement détériorées depuis la résurgence du M23. Kinshasa accuse Kigali de soutenir la rébellion, tandis que Kigali reproche à Kinshasa de collaborer avec le FDLR, des accusations rejetées par les deux parties. Un autre enjeu essentiel est de garantir le respect du cessez-le-feu signé entre la RDC et le Rwanda. Ce document, bien que crucial, pour une désescalade n'inclut pas la rébellion du M23 qui continue ses offensives sur le terrain tout en exigeant des négociations directes avec Kinshasa. Les statuts du M23 que Kinshasa refuse catégoriquement de reconnaître comme interlocuteur représentent un enjeu majeur. Clarifier son rôle dans le processus de Luanda pour obtenir la cessation des hostilités pourrait influencer de manière décisive l'issue du sommet. Ce sommet pourrait aboutir à un accord de paix entre la RDC et le Rwanda, mais la médiation angolaise devra se montrer plus convaincante pour trouver intérêt d'attente entre les deux parties. Beni, Martial Papi Mukeba, Radio Okapi.
Justement, dans le cadre de ces processus de médiation pour résoudre la crise sécuritaire dans l'est de la RDC, la 7e réunion ministérielle entre la RDC et le Rwanda se tient depuis l'après-midi de ce samedi 14 décembre à Luanda, en Angola. Les ministres congolais et rwandais des affaires étrangères y participent. Organisée sous la facilitation de la République d'Angola, cette rencontre précède le sommet tripartite RDC-Rwanda-Angola prévu, comme nous l'avons dit, ce dimanche à Luanda, qui devrait réunir les présidents Félix Tshisekedi et Paul Kagame sous l'égide, bien entendu, de João Lourenço. Et sur le terrain au Nord Kivu, les combats entre les FARDC et le M23 ont repris hier aux environs des 11h heure locale à Kasee, une localité stratégique partagée entre l'armée et les rebelles qui constitue un passage vers la commune rurale de Kirumba, située à 25 km plus loin dans le sud du territoire de Lubero. Cette reprise survient après une accalmie observée vendredi sur différentes lignes de front dans la zone. Selon des sources sécuritaires et locales, les échanges de tirs d'artillerie lourde se déroulent dans un endroit connu sous le nom des Trois Antennes, où la situation reste tendue. En revanche, sur d'autres lignes de front, aucun combat n'a été signalé et les positions n'ont pas changé. Les villages de Matembe et Louof demeurent sous le contrôle des FARDC. Nous restons dans le territoire des Lubero. Au moins 49 structures de santé font face à de graves difficultés de fonctionnement depuis 6 mois. La situation s'est aggravée ces 10 derniers jours en raison de la reprise des combats entre les FARDC et les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda dans le sud des Lubero. Selon le médecin chef des zones, Dr Tade Masumbuko, les 23 centres de santé, 24 postes de santé, l'hôpital général de référence et un centre hospitalier d'Alimbongo sont confrontés à une pénurie des médicaments et autres intrants médicaux. Par ailleurs, l'afflux des déplacés amplifie la pression sur ces structures qui, dans certains cas, assurent des soins gratuitement. Docteur Tade Masumbuko lance un appel urgent à l'assistance. Il est au téléphone de Martial Papimukeba.
C'est depuis juin que les structures restent dans l'incapacité de prendre en charge les malades. Il y a rupture à médicaments et autres intrants pour la prise en charge des malades. Il y a aussi un afflux de malades et déplacés qui sont pris en charge presque gratuitement par les structures. Donc, il y a vraiment beaucoup de problèmes dans la zone santé depuis juin et jusqu'à maintenant. La reprise des combats n'a fait qu'accentuer cette pénurie, ces problèmes et puis jusqu'aujourd'hui, les structures se voient à rupture, à médicaments et autres intrants. Aussi, il y a la prise en charge même des prestataires qui posent des problèmes. Les prestataires sont en train de travailler gratuitement. Ils ne sont pas payés. Il y a même certains prestataires qui ont commencé à quitter les structures et fuir dans des milieux les plus sécures. Jusque-là, nous n'avons pas de partenaires qui sont venus en aide.
Parlons des élections législatives nationales et provinciales ce dimanche dans les circonscriptions électorales de Massimanimba, dans les Kwilu et Yakoma, dans le Nord Koubangi. La Commission électorale nationale indépendante, CENI, a déployé hier le matériel électoral dans différents centres de vote. Notre envoyé spécial à Massimanimba, Blaise Makassi, a visité certains centres de vote de cette cité. Voici son reportage.
Au centre de vote et dans les bureaux de vote logés dans les écoles primaires Madaï et Tadi par exemple, le matériel électoral est arrivé samedi avant midi. Les chefs de centre s'attelaient à vérifier les différents documents et autres outils qui seront utilisés ce dimanche. Listes électorales, encre, chasubles, rubans, isoloirs, urnes, pour ne citer que ceux-là. Tout est donc prêt du côté de l'organisation. Les électeurs sont donc attendus ce dimanche pour voter dans la paix et la discipline. L'administrateur du territoire de Massimanimba, Émeric Angouma, recommande à la population d'aller voter dans le calme et dans le respect des autres.
En premier lieu, je remercie tous les candidats qui ont fait les campagnes. Je vous souhaite bonne chance, que les meilleurs gagnent. À la population, ne vous laissez pas manipuler par les gens de mauvais goût. Allons tous dans des centres de vote, chacun dans son bureau, votez votre candidat dans la paix.
La CENI rappelle aux candidats et leurs sympathisants de ne pas distribuer le jour de scrutin les manifestes, les circulaires ou documents de propagande et de ne pas porter des habits avec motifs, couleurs ou logos des partis politiques ou regroupements politiques et effigies de leurs candidats sur les lieux de vote. Depuis la cité de Massimanimba, Blaise Makassi, Radio Okapi.
À propos de ces élections, la commissaire divisionnaire adjointe Angèle Yangbonga appelle les policiers qui vont assurer la sécurité à la discipline et à empêcher tout désordre. Elle appelle la police à faciliter la tâche à la population qui ira voter, à respecter les consignes, à ne pas se livrer à des tracasseries et à ne pas céder à la provocation. Elle a dit au cours d'une parade organisée à l'intention des policiers déployés pour sécuriser les élections. La commissaire divisionnaire adjointe Angèle Yangbonga est au micro de Blaise Makassi.
Vous savez, nous, la police, dès par notre mission ordinaire, nous sommes là pour la protection de la population et leurs biens. Et pour le moment, c'est une mission spéciale pour la reprise des élections du territoire de Massimanimba. Alors nous sommes là pour sécuriser les électeurs, donc notre population de Massimanimba, pour accéder à leur centre de vote pour voter librement, sans inquiétude. Notre population doit être à l'aise, qu'elle ait confiance à leur police. Nous sommes là pour toute la population de Massimanimba, pour les sécuriser, pour que la population vote dans le calme, qu'elle ne soit pas inquiétée. Leur police est là pour leur sécurisation.
Direction la province du Congo central où le ministre provincial de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières est révoqué de ses fonctions. Cette décision est contenue dans un arrêté signé vendredi par le gouverneur des provinces. Il lui est reproché des graves violations des droits humains. Selon l'arrêté, constat Mavidila Ndomanuel est commanditaire des actes de torture et des traitements inhumains sur un citoyen à Kilaou, localité située dans le territoire d'Imbanzangongo. Le point avec Nana Plurich Mambou.
Cette révocation part d'une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux dans laquelle le ministre provincial de l'Intérieur, Constant Mavidila, ordonnait à un homme de son équipe de fouetter publiquement un père de famille. Cette scène choquante et humiliante ayant plongé les habitants du Congo central et autres observateurs dans l'indignation s'est déroulée dans le village Kilaou en territoire de Mbanzangungu. L'Assemblée provinciale du Congo central qui a condamné les traitements cruels ordonnés par une autorité publique a, à l'issue d'une plénière ce vendredi, demandé au gouverneur présent dans la plénière de révoquer ses ministres pour ce que cette institution qualifie d'atteinte grave aux droits fondamentaux. En effet, la victime de la torture a été reprochée des ventes illicites de nombreux hectares de terre aux personnes suspectes venues de la partie est du pays. De ces faits, séance tenante, la plénière de l'Assemblée provinciale du Congo central a adopté un moratoire suspendant la vente des terres sur l'ensemble de la province. Cette décision fait suite à une motion incidentielle introduite par le député provincial Atuma Tubwana, dans laquelle il a plaidé pour la mise en place d'une mesure d'urgence face aux préoccupations croissantes liées à la gestion foncière dans la province. Matadi, Nana Plurich Mambou, Radio Okapi.
Autre nouvelle sur la radio de la paix, clôture ce samedi des états généraux des entreprises du portefeuille de l'État. Dans son allocution à cette occasion, la première ministre qui a représenté le chef de l'État a souligné que l'un des défis majeurs est de rendre les entreprises congolaises financièrement autonomes. On écoute Judith Souminois au micro d'Alain Rung.
La réforme de la gouvernance des entreprises publiques a été l'un des points essentiels de ces états généraux. Il est apparu clairement que pour que ces entreprises deviennent des moteurs de développement, elles doivent impérativement être dotées de mécanismes de gouvernance solides et transparents. La révision des structures de gouvernance a été largement recommandée, avec la mise en place de conseils d'administration compétents et indépendants en mesure de gérer les entreprises publiques avec responsabilité et efficacité. L'un des défis majeurs a été de rendre nos entreprises publiques financièrement autonomes en générant des revenus propres. La rentabilité a été identifiée comme une priorité. Les recommandations ont porté sur la mise en place de modèles économiques rentables et l'élargissement des sources de financement par un encadrement des partenaires stratégiques. En effet, les partenariats devront être repensés afin de favoriser des retombées économiques et sociales durables pour la population congolaise. L'objectif est de maximiser la valeur ajoutée des ressources naturelles et de garantir que les bénéfices soient équitablement partagés entre l'État, les entreprises et les communautés locales.
Entre-temps, signalons que le président de la République a inauguré hier à Kinshasa le centre culturel et artistique pour les pays de l'Afrique centrale. On enchaîne avec la province de l'Ituri où des dizaines de jeunes désœuvrés ont appris des notions sur les techniques agricoles modernes dans le cadre de l'entrepreneuriat. Cette formation de 5 jours qui s'est clôturée vendredi à Bounia est organisée par les contingents bangladais et de la MONUSCO. Les participants se sont engagés désormais à pratiquer l'agriculture qui, selon eux, était auparavant une activité très négligée par la jeunesse. Isaac Rémo.
Au total, 34 jeunes ont suivi cette formation axée surtout sur les cultures maraîchères, tomates, aubergines, poireaux, choux, concombres, pastèques qui sont très sollicités sur les marchés locaux et qui ne nécessitent pas beaucoup d'espace arable. Ils ont appris des techniques modernes avec de bonnes qualités de semences pour leur permettre d'avoir une grande production. Ces notions ont permis aux participants de comprendre l'importance de l'agriculture et ils se sont engagés à s'y investir. L'une des participants.
Bon, parfois on négligeait, on savait pas l'importance, mais après cette formation, on en a six, l'importance de l'agriculture et c'est quoi les avantages rattachés à ces.
Cette formation leur permet aussi de s'engager dans l'entrepreneuriat pour gagner la vie à moindre coût plutôt que d'attendre des opportunités d'emploi, ce qui leur permet d'envisager l'avenir avec espoir. L'un des lauréats.
Il y a certains cultures de pratiquer d'une manière un peu abusive paysanne, mais on nous a aidé quand même à avoir de nouvelles techniques qui vont nous aider à booster la production, former les jeunes sur l'agriculture. Ça va nous aider aussi à nous lancer dans les domaines de l'entrepreneuriat, vu qu'on n'a pas trop d'emplois ici chez nous. Ça nous aide quand même à avoir quelque chose.
Ce contingent de la MONUSCO a déjà formé des centaines de jeunes en Ituri dans divers domaines, informatique, couture, mécanique et dans le cadre de la protection des civils. Bounia, Isaac Remoyope, Radio Okapi.
Actualité internationale.
Le 66e sommet ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO se tient ce dimanche 15 décembre à Abuja au Nigeria. Si de nombreux dossiers sont à l'ordre du jour, l'un devrait éclipser tous les autres, à savoir la sortie annoncée de l'organisation du Mali, du Niger et du Burkina Faso prévue pour le 29 janvier prochain. Désormais réunis au sein d'une alliance des États du Sahel AS, les trois pays maintiennent plus que jamais leur position malgré les tentatives de médiation.
L'invité.
Les électeurs de Massimanimba et de Akoma sont appelés ce dimanche aux urnes pour choisir leurs députés nationaux et provinciaux. Afin de faciliter la tâche aux électeurs, Jean-Baptiste Itipo, directeur de la communication de la CENI, revient sur la procédure à suivre et les consignes à respecter. Il annonce aussi des mesures sécuritaires et organisationnelles qui ont été prises pour que ces élections se déroulent dans le calme. Jean-Baptiste Itipo est interrogé par Blaise Makassi.
Monsieur Jean-Baptiste Itipo, bonjour.
Bonjour.
Les circonscriptions électorales de Massimanimba et Yakoma vont aller aux urnes ce dimanche. Quelles sont les orientations que la CENI donne aux électeurs de ces deux circonscriptions électorales?
La première des choses, ne peut se rendre dans un bureau de vote pour voter que l'électeur régulièrement inscrit sur les listes électorales de ces deux circonscriptions électorales. C'est-à-dire, l'électeur ou l'électrice doit avoir entre ses mains sa carte d'électeur valide et son nom doit figurer sur la liste électorale de la circonscription. Et muni de sa carte, l'électeur s'oriente vers son site de vote. Le site de vote est généralement l'endroit où chaque électeur ou électrice a obtenu sa carte d'électeur. Et il sera reçu par l'assesseur suppléant qui travaille dans un bureau de vote. Il oriente vers l'assesseur numéro 1 qui lui détient la liste électorale. Et la même liste électorale est affichée devant le bureau de vote. Et l'assesseur numéro 1 prend la carte d'électeur du votant et remet cette carte à l'assesseur numéro 2. Et il oriente vers le président du bureau de vote qui remet à chaque électeur ou électrice le bulletin de vote qui doit être nécessairement paraphé par le président et le secrétaire du bureau de vote. Le président et le secrétaire donnent certaines informations à l'électeur. Ils lui disent comment il doit introduire son bulletin dans les dispositifs électroniques de vote qui se trouve à l'isoloir. L'électeur se dirige à l'isoloir, fait son choix. L'électeur termine son vote. Le dispositif va émettre un son, merci d'avoir voté. Et puis, l'électeur se dirige vers l'assesseur numéro 2 qui le fait émarger sur la liste d'émargement. Il signe à côté de son nom. On lui applique l'encre indélébile. On lui remet sa carte d'électeur et puis il rentre et c'est fini.
Compte tenu de ce qu'il y a comme élément du passé, quelles sont les dispositions qui ont été prises cette fois par la CENI pour que les erreurs du passé ne se reproduisent plus?
D'abord, il y a une très forte présence policière partout, même au niveau des secteurs et à Massimanimba sur place, mais aussi les dispositifs électroniques de vote qui seront utilisés ne sont pas ceux qu'on a utilisés par le passé. Ce sont des dispositifs qui sont partis de Kinshasa, déployés par la CENI elle-même jusqu'au niveau du site des votes et au niveau des bureaux de vote. Ça, c'est des 1. Au niveau du personnel, tout le personnel qui travaille sur place à Massimanimba est parti du siège de la CENI ici à Kinshasa. Il y a d'autres collègues qui sont là sur le terrain qui jouent le rôle de point focal logistique, point focal informatique, point focal chef d'antenne et avec l'ensemble du personnel qui est même dans la supervision opérationnelle sur le terrain, même au niveau des villages, il y a les agents de la CENI qui sont là. Et sur place, il n'y a que les techniciens informatiques des centres de vote qui ont été recrutés et puis les membres des bureaux de vote directement qui ont été identifiés parmi le personnel enseignant. À ces derniers, il leur a été dit que celui qui va se méconduire sera l'objet des sanctions même au niveau de l'EPSP et du ministère de l'Enseignement. l'enseignement qu'il utilise ou de l'éducation qu'il utilise.
Dernière question, Monsieur Itipo. Certains électeurs se sont plaints du fait que au moment des clôtures de délivrance de duplicata, ils n'ont pas pu obtenir leur cas. Quelles sont les dispositions qui ont été prises pour ce genre d'électeurs?
D'abord, une petite mise au point. Depuis trop longtemps, au début même du lancement du processus de la reprise, la CENI a commencé avec la consultation des listes qui est allée simultanément avec la délivrance des duplicata. Et vous devez vraiment donner cette information parce que au-delà même de la loi, de l'article 27 de la loi portant identification et enrôlement des électeurs, qui oblige à chaque électeur de se rendre au niveau de l'antenne, la CENI est allée au-delà jusqu'à établir des points de délivrance des duplicata dans les bureaux des secteurs. Et ça, la presse ne le dit pas. Donc, jusqu'au niveau des bureaux des secteurs, la CENI a procédé à la délivrance des duplicata. La CENI l'avait si bien dit dans le calendrier, le 14, on arrête avec la délivrance des duplicata au niveau des bureaux des secteurs. Imaginez que si cela ne pouvait être que conforme à l'article 27, donc tout le monde devait se rendre à Massy pour obtenir son duplicata. Mais on a facilité les choses, hein. On est allé même au-delà de la loi. Et donc, il y a eu une période assez longue, très longue même, de la délivrance des duplicata. Et comme nous sommes chez nous au Congo, les gens préfèrent agir toujours à la dernière minute et dire que voilà la CENI. Non, la CENI a fait un travail appréciable. D'abord, la consultation des listes et ensuite la délivrance des duplicata.
Monsieur Jean-Baptiste Itipo, merci beaucoup.
Merci.
Le directeur des communications de la CENI, Jean-Baptiste Itipo, était avec Blaise Makassi. Ce journal touche à sa fin. Il a été coordonné par Jacques-Yves Molima et supervisé par Alain Rong. Mimi Kindou était à la mise en onde et grâce à Mzati Massanzi à la présentation. Merci pour votre attention.